Dans cette troisième heure, plusieurs sujets. On va parler donc de ces pesticides, de cette classe de pesticides qui va être éliminée progressivement. Ça va donner une petite chance à nos abeilles adorées qui sont tellement importantes pour la nature, pour les récoltes et tout le reste. On va parler également, c'est une très belle histoire. Vous savez, on dit on manque beaucoup de main-d'œuvre. Il faut que les nouveaux arrivants, il faut les installer de plus en plus dans nos régions. Les Laurentides se sont donné une belle stratégie pour attirer des nouveaux Québécois chez eux pour combler les emplois. On va parler à l'un d'eux qui s'est installé là-bas, à Mont-Tremblant, puis on va parler à quelqu'un donc, qui est un peu responsable de cette stratégie-là. On va vous parler aussi, c'est moins drôle, pas mal, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a 40 ans, jour pour jour, disparaissait un petit bébé de 18 mois. 18 mois seulement, Johanna Cyr. On n'a jamais retrouvé sa trace. On ne sait pas si elle a été assassinée. On ne sait pas si le petit bébé a été enlevé. On ne sait rien. Mais sa mère essaie toujours de la retrouver. On l'aura en entrevue. Mais d'abord, on va discuter de ce qui s'appelle le divorce gris. C'est-à-dire des couples baby boomers. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble. Dans certains cas, ils arrivent 50, 55 ans. Dans certains cas, ils prennent leur retraite et paf, ça pète. Ils se laissent. Et il y en a de plus en plus comme ça, qui se laissent. Pour ceux qu'on appelle le divorce gris, hein, comprenez. Rosemarie Charest est psychologue et conférencière. Elle est venue en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous en avez vu, oui. Vous en connaissez, on en connaît tous. Oui. C'est quoi? C'est parce qu'on vit plus longtemps?
Bien, c'est sûr que ça, hein? C'est un des facteurs. Le couple va durer beaucoup plus longtemps s'il dure jusqu'à la fin de la vie d'un des deux. Donc, la remise en question est plus fréquente. L'autre chose, c'est qu'on peut le faire. Vous savez, quand vous deviez vous séparer et qu'il y avait un stigma enjeu. Social épouvantable...
Ou un enjeu d'autonomie financière.
Ouais. On sait que maintenant que plus de 70 % des couples avec enfants ont deux revenus. Donc, il y a plus d'autonomie financière entre les deux conjoints. Un autre facteur, c'est que d'envisager la retraite, c'est envisager un stress majeur. Tout le monde pense à ça, la retraite, on va se sentir libre.
Un stress majeur,
oui,
de quelle façon?
Pour un couple, c'est toute une réadaptation
de vivre
la retraite.
T'es pas habitué de...
Ben non, d'être toujours ensemble. Et toute la dynamique du couple qui change lorsque la retraite arrive. Vous savez, un couple, c'est trois territoires. Le mien, le tien et celui qu'on met ensemble. Tant qu'il y a le travail, c'est relativement facile de protéger et de faire protéger mon territoire. Dire au conjoint, écoute, je peux pas, je m'en vais travailler, j'ai pas le temps parce que j'ai travaillé, c'est beaucoup plus facile que dire... Je le fais pas parce que ça me tente pas. Parce que là, j'ai plus la raison du travail. Ah. Donc, la retraite et la retraite anticipée. Un autre facteur, c'est que rendu à cet âge-là, les enfants ont soit quitté la maison ou sont en train d'acquérir leur propre autonomie. Donc, le rôle de parent, le rôle de coparentalité est moins présent. Or, projet.
Et souvent, les enfants, c'est notre projet.
C'est le projet commun par
excellence. Et
lorsque
les enfants ont quitté, le projet commun par excellence, vous le disiez bien, lorsque les enfants ont quitté la maison, non seulement si tu es retraité, tu te retrouves à être ensemble 7 jours par semaine, mais la maison est vide.
La maison est vide. Donc, le syndrome du nid vide, ça a été bien documenté en psychologie. On souffre moins de ça maintenant parce que chacun a plus ses occupations. Mais comme couple, la raison d'être du couple doit à ce moment-là devenir vraiment la relation qu'il y a entre les deux. Or, des occasions de se perdre de vue, on a eu... en masse. Surtout si on a eu des enfants, si on a eu deux carrières, on a eu beaucoup, beaucoup de temps pour investir ailleurs.
Mais on s'en est pas aperçu? Et là,
parfois,
on s'en aperçoit quand on se retrouve.
Parfois, on s'en est pas aperçu et là, on s'en aperçoit.
Et là, on arrive à 55, 57, 60 ans, 62 ans et puis tu regardes la personne avec laquelle tu as partagé 30, 35 ans de ta vie et finalement, tu te dis, mon, t'as dit, je l'aime, je ne l'aime plus.
Dans certaines conditions, mais dans d'autres conditions, tout ce qu'on a vécu ensemble a soudé la relation. Donc, c'est pas toutes les relations qui, à ce moment-là, vont prendre fin, bien sûr.
Non, mais quand
celles
on lit,
qui
attendez,
prennent
là.
Fin, quand même, les statistiques sont élevées.
Mais Rosemarie,
7,5 il y a plus de gens séparés que de gens veufs. Là, hein,
Stéphane Desjardins, dans son papier d'hier, écoutez bien ça, moi j'ai trouvé ça déprimant, Rosemarie, OK?
Ouais.
67 % des couples mariés depuis 90, 1990.
Sont séparés
en auront divorcé en 2030. C'est plus que le deux tiers ouais. des gens mariés en 90 qui se seront laissés en 2030.
Ouais. Mais ils donnent une piste d'explication que je trouve intéressante aussi. J'ai lu quelques articles. Peut-être c'est pas dans cet article-là. Où ils disent que peut-être qu'on est la génération de gens qui se séparaient beaucoup. Donc, qui se sont mariés quand même pas dans le même esprit dans lequel nos parents se sont mariés, où c'était vraiment pour toujours. Donc, il y a quand même toujours une petite porte entrouverte. L'autre chose, c'est que le vieillissement de la population, la longévité des individus, forcément, ça amène des gens à dire, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que je vais passer les 25-30 prochaines années de ma vie avec la même personne avec qui je viens de passer les 30 dernières années, compte tenu du fait que la relation passée et la relation à venir sont de l'extérieur, du moins, des relations très différentes, compte tenu qu'on aura des enjeux différents, des problématiques différentes à gérer.
Notamment, il n'y aura plus d'enfants.
Il n'y aura plus d'enfants. On n'aura plus le travail pour nous séparer. Qu'est-ce qui nous lie? Alors, c'est ça, c'est une leçon de vie.
C'est comme si, de par le fait qu'on va vivre en moyenne 80 quelques années chacun, hommes et femmes, c'est comme si, d'une certaine façon, on avait deux vies en une maintenant. On peut vraiment quitter le travail à la fin de la cinquantaine, début de la soixantaine. Quoique, plus ça va aller, plus on va travailler tard. Mais ça, c'est un autre enjeu, là. Mais tu peux te retrouver à 57, 58 ans puis dire...
Il me reste une vie.
Il me reste une vie. Et j'ai pas nécessairement le goût de la passer avec la personne avec laquelle j'ai passé la première vie parce que je suis plus sûr de l'aimer autant que je pensais. Ou encore, j'ai pas vécu la vie que j'aurais souhaité dans ma première vie. J'ai pas vécu le grand amour, par exemple. Et là, donc, je repars en neuf.
Ouais. Écoutez, ça, je souhaite que les gens fassent vraiment une analyse très éclairée de la situation. Parce que vous savez, des fois, c'est tentant de rêver et de penser que ce qu'on n'a pas eu, on va l'avoir. Mmh. Mais si on change sa vie dans l'espoir d'avoir une chose, il faudrait quand même vérifier un peu la possibilité.
Si tu vas changer pour le mieux. Si tu vas changer.
Il faut savoir ce qu'on quitte. Si on veut vraiment savoir faire une belle séparation, parce que c'est possible aussi, il faut savoir pourquoi on se sépare. Qu'est-ce qu'on quitte? Ce à quoi on aspire. Est-ce que c'est réaliste? Il faut quand même voir qu'il peut y avoir quelque chose de difficile dans un couple, mais il peut y avoir toute une construction qui est là, qui ne se rend 30 ans de vie commune, ça ne se remplace pas avec un week-end très agréable. Hein? Il va falloir recréer une relation, ça se crée à partir des expériences communes qu'on a vécues. Alors, peut-être qu'avant d'avoir une relation aussi solide que celle qu'on quitte, ça peut être long. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se séparer, mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être être plus réaliste au moment où on prend la décision. L'autre chose, c'est que malheureusement, dans les couples dont on parle qui se séparent, il est fort possible que ce ne soit pas deux personnes qui, un même matin, ont pris la décision ensemble de se séparer. Et dans la plupart des cas, il y en a un des deux qui se sépare, qui veut ça, l'autre pas. Ça veut donc dire que chacun devrait être aussi réaliste pour ce qui en est de son autonomie, notamment financière, mais pas que financière. Dans son autonomie affective aussi, son autonomie sociale, à voir si telle chose peut arriver à 60 ans, j'y survivrai si j'ai aussi une vie qui m'appartient.
Mais j'aime beaucoup quand vous dites, attention là, avant de penser que la deuxième histoire d'amour sera meilleure magique, que la première, oui. Sera, tu sais, bon, il faut se rappeler qu'une séparation entraîne presque toujours un appauvrissement.
Il ne faut pas l'oublier parce que
l'argent, c'est quand même important. Là, on dit que ce n'est pas ça qui fait le bonheur, mais mettons que ça y contribue, on s'entend. Et par ailleurs, de laisser tomber la femme ou l'homme avec lequel on a vécu pendant 25-30 ans, ça a d'autres conséquences aussi. Ouais. Tu peux te retrouver mauditement tout seul.
Parce que ton réseau peut avoir des conséquences. Il y a des conséquences matérielles, des conséquences sociales, des conséquences familiales. Il y a des familles qui se séparent au moment de la séparation des parents ou entre les enfants, il y a des conflits et tout ça. Donc, il faut vraiment évaluer tout ça. L'aspect financier, vous faites bien de le nommer. Parce que peut-être ça ne rend pas heureux, mais les stress financiers, ça rend malheureux. On le sait. Donc, il faudrait arrêter de penser que parce qu'on aime l'argent, on parle pas de ça. Donc, l'argent, comme autonomie, ça doit être aussi pris en considération. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là au niveau financier? Oser dire les choses, oser échanger là-dessus, oser penser aux différentes possibilités, celles où on restera ensemble, mais celles où, même si c'est pas ce qu'on souhaite, qui pourrait arriver où on resterait pas ensemble. Et aussi par rapport aux aspects sociaux. Avoir une vie intéressante. Chacun de notre côté, ça a plus de chances de garder le couple ensemble si chacun a une vie intéressante. Et en plus, si jamais prochain couple éclate, ben chacun pourra y survivre.
Ah, j'aime ça. Je trouve ça tellement vrai ce que vous venez de dire là, parce que de garder, puis ça c'est un peu cliché de le dire, mais moi je pense que c'est vraiment vrai, de garder une certaine admiration pour la ouais. personne avec laquelle, de la voir se réaliser, d'avoir des choses à discuter avec elle, comment ça a été aujourd'hui, je sais que tu travailles sur tel projet, comment ça avance, de pouvoir partager son expérience professionnelle, puis de l'avoir travaillé, puis de l'avoir mm-hmm. réussir sur le plan professionnel, ouais. écoute, c'est tellement important.
C'est important que chacun ait une vie intéressante. Si on veut être intéressant pour l'autre, oui. il faut que notre vie à nous soit intéressante.
Oui, oui, exactement.
Dans
exactement.
Tous les domaines.
Alors, est-ce que vous pensez que la... Comment je dirais ça? La conception de l'amour est en train de changer. Est-ce que ça pourrait s'installer, là, parce que l'espérance de vie est autour de 80, on le dit, elle pourrait encore augmenter là, de quelques années. Est-ce que ça pourrait devenir la norme, éventuellement, que... on commence notre vie amoureuse et qu'on se dise, je vais avoir deux grandes histoires d'amour dans ma vie. Vous comprenez? De dire ouais. que ça devienne une espèce de norme où tu te dis, 20, 25 ans, mettons 30 ans, je sais pas quoi. Et là, tu sais que au bout de 25, 30 ans, il y aura une espèce de fin et il y aura autre chose qui commencera par la suite.
Ben, je pense que personne n'osera dire ça. Il n'y a personne qui, le jour de ses noces, va dire « je te marie pour 30 ans ».
Non, ben non.
On aime toujours ça, penser que ça va être pour toujours. Maintenant, la force des modèles et la force de l'entraînement est extrêmement grande et il en va de la relation amoureuse que, comme de toute autre forme de relation. Elles sont influencées par ce qui se passe globalement dans la société. Si on vit plus longtemps, selon les facteurs économiques, selon le mouvement, selon les modèles qu'on a, on pourra développer différents modèles de relations. Il fut un temps où l'amour était au service de la famille.
Oui.
Maintenant, l'amour est au service de l'individu.
Ah, c'est vrai, ça.
Donc, c'est vrai. Forcément, ça entraîne des changements dans la durée du couple, dans la façon de vivre le couple. Est-ce qu'il y aura d'autres changements? Peut-être.
Est-ce qu'on pourrait en venir à accepter que pour qu'un couple dure pendant 50 ans, là, mettons, un couple, qu'il faut accepter peut-être de modifier notre approche sur le plan de la sexualité. Accepter que, par exemple, l'exclusivité sexuelle doit être remise en question parce que si tu ne l'acceptes pas, ça cause d'autres problèmes ailleurs?
Ben, il y a évidemment énormément de tentatives qui sont faites dans ce sens-là. Dans les années 70, la notion de couple ouvert oui. était très, très, très véhiculée. Ça n'a pas apporté les succès qu'on pensait que ça apporterait. Parce que, vous savez, la blessure de ne pas être l'unique dans la vie de l'autre, elle ne change pas comme on change une convention collective. Là. Il y a quelque chose de très émotif. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a plus le même rapport au couple qu'on a déjà eu. Le couple n'est plus la survie de l'individu. Pour les femmes, le couple a été pendant très longtemps la survie de l'individu. Et la raison pour laquelle, historiquement, biologiquement, la raison pour laquelle la fidélité était excessivement importante, c'est qu'on voulait savoir qui était le père de cet enfant-là. Hein, donc maintenant, on a tout à fait d'autres moyens et la notion de...
Mais pourquoi c'est important d'assurer d'assurer la paternité?
La survie de la famille, c'était le père au niveau économique.
Pourquoi il fallait absolument être certain que c'était bel et bien lui, le géniteur?
Ben, si on voulait qu'il reconnaisse cet enfant-là,
pour l'héritage.
D'ailleurs, non seulement pour l'héritage, mais pour prendre soin de l'enfant. Donc, on voulait absolument que les femmes soient fidèles et les femmes voulaient que les hommes soient fidèles. Bon, là, il y aurait tout un chapitre là-dessus sur la fidélité, mais il y a quelque chose de notre possessivité qui entre en jeu dans la sexualité. Est-ce que ça a évolué? Oui. Il y a de plus en plus de couples, par exemple, qui a une infidélité d'un côté ou de l'autre, vont être capables de ramener le couple ensemble malgré ça. Pour qui ce ne sera pas nécessairement la cause de la rupture. Est-ce que ça arrive sans douleur? Ça, par exemple, je ne serais pas prête à le dire. Vraiment pas.
C'était vraiment fascinant, Rosemarie Charest.
Vraiment, ça me fait plaisir.
Psychologue et conférencière. Merci beaucoup de vous être déplacée. Écoutez, on vient d'apprendre la nouvelle. Le grand comédien Albert Miller. Vous souvenez-vous d'Iberville? D'Iberville, la série fin des années... Moi, je n'étais pas vieux, là. Mais d'Iberville, et ça, c'était Albert Miller. Bien, il vient de décéder à l'âge de 83 ans. Et tout de suite après la pause, on va parler à Pierre Curzi qui va lui rendre hommage.